VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Ouagadougou, 18h à Bujumbura. Bienvenue à notre journal. Au Burundi, Pascal Diabenda, président du CNDD-FDD, parti au pouvoir, s'en est pris violemment à la Belgique, ancienne puissance coloniale. Il accuse Bruxelles d'armer l'opposition dans l'objectif de recoloniser son pays. Et son pays qui est actuellement plongé depuis 6 mois dans une crise politique. Les lobbies belges et le réseau de l'Union européenne lancent des déclarations apocalyptiques concernant un génocide au Burundi dans le seul but de protéger une nébuleuse politicienne que le colonisateur belge finance et arme dans notre pays afin de le détruire, a affirmé M. Diabenda dans un communiqué. Dans le sud-est de la République démocratique du Congo, 8 militants d'un parti congolais récemment passé à l'opposition ont été arrêtés hier à Lubumbashi. Des précisions avec Eddy Isango.
Selon des témoins, 8 personnes ont été arrêtées au siège du parti où les soldats ont même déchiré la grande affiche à l'effigie de Gabriel Kyungu wa Kumwanza, président de l'UNAFEC et de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. L'armée affirme que ces arrestations résultent de la traque des membres du service d'ordre de l'UNAFEC recherchés pour avoir incendié la maison d'un dissident, ce que dénoncent ces partis. L'UNAFEC appartient au G7, groupe des 7 partis dont les dirigeants ont été exclus de la majorité en septembre après avoir mis en garde les présidents Joseph Kabila au pouvoir depuis 2001 contre la tentation de s'accrocher à son poste. À Kinshasa, l'opposant Joseph Olinga Nkoy, président de FONUS, a déclaré que 3 membres de son mouvement avaient également été arrêtés le 5 novembre.
Un casque bleu est mort hier en Centrafrique lors d'affrontements entre factions rivales à quelques semaines des élections qui doivent remettre le pays sur les rails. La mort de ce soldat a lieu au moment où l'ONU s'apprête à envoyer des centaines de casques bleus supplémentaires dans le pays. Le soldat a été retrouvé mort à Batangafo, à près de 400 km au nord de Bangui, où avaient éclaté des violences entre des éléments armés assimilés aux milices, majoritairement chrétiennes anti-Balaka, et d'autres assimilés plutôt à l'ex-Seleka, une coalition hétéroclite à dominance musulmane. Au Tchad, le recensement électoral biométrique lancé le 26 octobre en prévision des élections de 2016 rencontre d'énormes difficultés sur le terrain. Il était question initialement d'ouvrir plus de 8000 centres de recensement sur le territoire national et de boucler l'opération en 45 jours, mais cet objectif semble maintenant une mission impossible. Timothée Donangmaï a joint à Moïse Sala dans le sud du Tchad, Ali Gabriel Golor, secrétaire général national de la Convention pour la démocratie et le fédéralisme, un parti d'opposition.
Les premières difficultés se situent au niveau des agents qui s'occupent de l'opération recensement. Ces agents-là, ce sont les opérateurs, les accompagnateurs et les superviseurs. Leur formation a été trop rapide, de telle sorte que beaucoup d'entre eux n'arrivent pas à bien maîtriser l'outil informatique. Ça, c'est la première difficulté. La seconde, c'est que les kits d'enrôlement ne sont pas livrés en nombre suffisant. Je prends deux exemples. Dans la localité de Bédaya, enfin la sous-préfecture de Bédaya, il a été prévu de livrer 19 kits pour le recensement. Mais au moment où je parle, Bédaya ne possède que 3 kits. À Bessada, il a été prévu de livrer 14. Au moment où je parle, Bédaya, toute la sous-préfecture n'a que 3 kits. Donc cela va avoir des répercussions certaines sur le travail.
Comment les électeurs réagissent-ils par rapport à ce recensement?
Il y a eu de la sensibilisation et j'ai constaté que la plupart des électeurs veulent se faire recenser. Tel que nous constatons, on risque d'arriver à la fin du délai de 45 jours sans qu'une bonne partie ne soit recensée. Donc, il y a un vrai problème de prolongation du délai qui se pose en ce moment. Mais il y a d'autres difficultés, hein, mais ça c'est les difficultés matérielles des agents qui sont sur le terrain maintenant. Il y a des problèmes de véhicules qui sont en nombre insuffisant. Il y a le problème de carburant qui n'est pas livré en quantité suffisante. Il y a le problème des indemnités des agents qui n'est pas résolu. Donc il y a des tas de problèmes qui bloquent la bonne marche de l'opération recensement en ce moment.
Qu'est-ce qui peut être fait pour rattraper les choses?
Nous qui sommes du CNDP, nous avons fait le constat au Moyen-Chari et dans le Mandil où nous nous trouvons en ce moment. Nous avons tenu une réunion à Koumra avec les délégués de la CENI dépêchés de N'Djamena. Nous avons attiré leur attention sur les différents problèmes et nous avons demandé avec insistance qu'ils saisissent la CENI mère N'Djamena pour pouvoir résoudre ces problèmes-là.
Ali Gabriel Golo, secrétaire général national de la Convention pour la démocratie et le fédéralisme, parti d'opposition au Tchad. En Guinée équatoriale, le président Teodoro Obiang Nguema, au pouvoir depuis 36 ans, s'est déclaré hier soir candidat à un nouveau mandat pour la présidentielle de 2016, dont la date exacte n'est pas encore précisée. M. Obiang a fait cette annonce à l'ouverture du troisième congrès extraordinaire du PDGE, le Parti démocratique de Guinée équatoriale, dont il est le leader.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Le président béninois Thomas Boni Yayi, l'un des rares chefs d'État africains à s'être engagé à passer la main au terme de deux mandats, a choisi de respecter la constitution du Bénin en ne se présentant pas à l'élection présidentielle de 2016. Il l'a expliqué hier dans un entretien à l'AFP en marge d'une visite officielle à Paris. « Chacun sa conviction, a-t-il dit. La mienne, c'est de respecter la constitution de mon pays qui prévoit deux mandats non renouvelables », a souligné le président Boni Yayi. Au Nigeria, 36 ministres et secrétaires d'État ont prêté serment aujourd'hui dans la résidence du président Muhammadu Buhari à Abuja. M. Buhari garde le portefeuille du pétrole. Nigeria toujours, la police a dispersé hier de manière musclée plusieurs centaines de Biafrais qui manifestaient pour la libération de militants de la cause indépendantiste à Port-Harcourt. Des précisions avec Anastasie Tudiech.
À Port-Harcourt, capitale de l'État de Rivers, la police a confirmé la manifestation mais a nié les tirs de sommation et l'utilisation de grenades lacrymogènes. La police fédérale avait annoncé un accroissement des mesures de sécurité, avertissant que personne ne serait autorisé à troubler la paix de la nation. L'organisation du peuple indigène du Biafra, l'IPOB, organise depuis des semaines une série de manifestations pour réclamer la libération de Nnamdi Kanu, directeur de la station pirate Radio Biafra. Il a été arrêté en octobre. Avant cela, sa radio avait été fermée après avoir été accusé de diffuser des messages de haine. La multiplication des manifestations en faveur de sa libération ravive le souvenir de la sécession du Biafra et de la guerre qui avait fait plus d'un million de morts entre 1967 et 1970. L'ethnie Igbo, majoritaire dans le sud-est du Nigeria, se plaint d'être punie depuis la fin de ce conflit.
Actualité aux États-Unis maintenant, les 8 principaux candidats républicains à l'investiture de leur parti pour la présidentielle de 2016 ont eu leur quatrième débat hier soir à Milwaukee dans le Wisconsin, un débat axé sur l'économie. Le milliardaire Donald Trump, pratiquement ex aequo avec le neurochirurgien Ben Carson dans les sondages, a estimé que les impôts et les salaires étaient trop élevés aux États-Unis, ce qui rend difficile pour l'Amérique la concurrence dans le monde. Les participants au débat ont également parlé de l'immigration illégale.
Concernant l'immigration, M. Trump a dit que les États-Unis n'ont pas d'autre choix que d'expulser les sans-papiers. On a besoin de frontières, nous aurons un mur, ça marchera. Tout ce que vous avez à faire, c'est de demander à Israël. Le mur, ça marche, croyez-moi, a-t-il dit. Le sénateur Ted Cruz du Texas a souligné le droit de chaque nation souveraine de sécuriser ses frontières. Mais les autres candidats, dont Jeb Bush, Marco Rubio et le gouverneur John Kasich de l'Ohio, ont exprimé leur désaccord. Ce dernier a fait remarquer que tout plan visant à expulser des États-Unis, 11 millions de sans-papiers est simplement idiot. La politique étrangère n'a pas été cependant absente du débat. Donald Trump a exprimé son soutien aux actions militaires de la Russie en Syrie, tout en se posant des questions sur l'aide envoyée aux rebelles modérés en Syrie. Les États-Unis, a-t-il dit, ne peuvent pas jouer le rôle de gendarme du monde. Jeb Bush a rétorqué qu'il n'est pas question de gendarme du monde, demandant à l'instar de M. Kasich et la femme d'affaires Carly Fiorina la création d'une zone d'exclusion aérienne en Syrie. M. Bush a dit que l'Amérique doit être un leader. Il trouve tragique que l'Irak et les autres parlent à la Russie. L'ingérence de Moscou en Ukraine a été également abordée, tout comme la Chine et les allégations de cyberattaques, ainsi que ses revendications en mer de Chine méridionale.
Et pour terminer cette nouvelle de dernière minute, l'Union européenne et une trentaine de pays africains sont réunis en ce moment à La Valette, à Malte, pour discuter de la migration illégale vers l'Europe. Les Européens comptent faire pression sur les leaders africains pour qu'ils limitent le flux de migrants. Ils ont l'intention de mobiliser 3 milliards d'euros, un peu plus de cette somme en fait, pour un fonds fiduciaire pour l'Afrique, dont l'Europe fournirait la moitié. Et ce, pour freiner l'afflux des migrants africains vers le continent européen, selon l'AFP. Et pour terminer, l'opposante birmane Aung San Suu Kyi a appelé aujourd'hui à des pourparlers avec 3 des principaux dirigeants birmans au moment où les résultats partiels des élections créditent son parti d'une grande victoire. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.